monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir, le monde aujourd'hui, bienvenue dans cette édition des 17h30 TU du mardi 4 décembre 2018. John Lydon à la présentation d'abord, les titres de cette édition. En République démocratique du Congo, la campagne pour la présidentielle bat son plein. Les principaux candidats sont sur le terrain. La journée Togomor lancée par l'opposition n'a pas été suivie. Lomé a vécu une journée presque normale. Au Sénégal, Sidi Lamine Niass, fondateur du groupe de presse Walfadjri, est décédé à Dakar. En France, le gouvernement joue la carte de l'apaisement face à la colère des gilets verts. Et puis, ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports. Mais tout d'abord, le journal. Bonsoir à tous. En RDC, à moins de 3 semaines du scrutin, les 3 principaux candidats à l'élection présidentielle du 23 décembre battent campagne. Le candidat au pouvoir Emmanuel Ramazani Chadari affrontera une dizaine d'adversaires, dont 2 ténors de l'opposition, Félix Tshisekedi et le député Martin Fayoulou. Faisons le point à Kinshasa avec notre correspondant sur place, Thierry Kabundi.
Après une première semaine timide qui a vu seul le candidat de la coalition au pouvoir Emmanuel Ramazani Chadari se lancer à l'assaut des électeurs, les autres favoris de la présidentielle du 23 décembre 2018 ont rejoint la dynamique de la campagne électorale. Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe ont tenu mardi un meeting au stade Afia de Goma au Nord Kivu. Les 2 leaders du ticket UDPS-UNC feront ensuite Bukavu le 6 décembre, puis Kisangani le 11. Martin Fayoulou est lui attendu mercredi à Beni, ville meurtrière de la province du Nord Kivu. Le candidat de la coalition Lamuka fera ensuite Butembo, Bunia, Goma, Bukavu, Kisangani, Buta, Isiro et Kindu selon son équipe de campagne. Emmanuel Ramazani Chadari, le candidat du Front commun pour le Congo, a lui, après le Grand Katanga entamé par Gbadolite dans le Nord Ubangi, la conquête de l'ouest et du nord-ouest de la RDC. Il ira à Gemena, à Lisala, à Bumba, à Bouende et à Mbandaka, des villes du Grand Équateur. Les autres candidats présidents de la République se contentent pour le moment des affiches banderoles et passages dans les médias et petits rassemblements à Kinshasa. Certains attendent que les conditions sécuritaires et matérielles soient réunies avant de se lancer dans la conquête du Congo profond. Kinshasa, Thierry Kamboudi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Toujours en RDC, l'ambassade des États-Unis à Kinshasa a rouvert ses portes au public après 8 jours de fermeture en raison d'une possible menace terroriste. Tous les services consulaires fonctionneront exclusivement sur la base de rendez-vous, a indiqué la mission américaine dans un message publié sur son compte Facebook. Dans un premier temps, les autorités congolaises avaient estimé que cette fermeture traduisait une volonté de créer une psychose inutile avant de se raviser et de déclarer la menace sérieuse. Tous les hauts responsables du Gabon, dont le premier ministre, le vice-président et la présidente de la Cour constitutionnelle, sont à Rabat au Maroc où le président Ali Bongo Ondimba est hospitalisé. Le président gabonais, 59 ans, est depuis le 29 novembre dans un hôpital militaire de la capitale marocaine pour y suivre sa convalescence après plus d'un mois passé dans un hôpital de Riyad en Arabie Saoudite pour une maladie qui reste officiellement inconnue. Hier, le roi du Maroc, Mohamed VI, ami de longue date du président gabonais, lui a rendu visite. Au Cameroun, les poursuites engagées contre 52 opposants ayant manifesté fin octobre contre les résultats de la présidentielle du 7 octobre ont été abandonnées mardi à Douala, selon leur avocat Maître Emmanuel Sim, également vice-président du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, l'un des principaux partis d'opposition. Cet abandon des charges concerne toutes les personnes qui étaient poursuivies, dont Maître Michel Ndoki, avocate et cadre du MRC. En RCA, la Cour pénale spéciale chargée de juger les violations graves des droits de l'homme commises dans le pays depuis 2003, qui n'a pas encore lancé d'enquête, aura un domaine restreint d'intervention en raison du nombre de crimes commis dans ce pays et d'un budget limité. C'est ce qu'ont reconnu ses dirigeants. La Cour dispose d'un budget total de 61 millions d'euros et devra se pencher sur les violations des droits de l'homme, crimes de guerre et crimes contre l'humanité. La journée Togomor a été peu suivie mardi à Lomé. La ville a vécu une journée presque normale, malgré le mot d'ordre lancé par la coalition des 14 partis de l'opposition. Le point dans la capitale togolaise avec notre correspondante sur place, Kai Lawson.
La journée Togo Mort a été légèrement suivie à Lomé. Un tour dans la ville, de Rejanawe à Blogame, en passant par le mythique quartier de Bay, on constate une ambiance ordinaire. Les embouteillages matinaux étaient au rendez-vous, au grand carrefour et sur les axes principaux de la capitale togolaise ce matin. Le mot d'ordre a été lancé par la C14 pour demander l'arrêt du processus électoral. Il a été peu respecté. Dans le centre commercial d'Adaulato, les commerçants ne se sont pas fait prier pour venir au marché, surtout à l'approche des fêtes de fin d'année, période propice pour faire des chiffres d'affaires. À part quelques rares boutiques qui sont restées fermées, Lomé a connu une journée normale. La campagne électorale pour les législatives du 20 décembre a débuté aujourd'hui. Kailosson, Lomé, VOA Afrique.
Plus d'un an après son arrestation à Paris, François Compaoré, le frère du président burkinabé déchu Blaise Compaoré, sera demain mercredi si la justice française accepte de l'extrader vers le Burkina Faso. François Compaoré est mis en cause dans l'enquête sur l'assassinat du journaliste Norbert Zongo le 13 décembre 1998 dans le sud du Burkina. Au Sénégal, Sidi Lamine Niass, président directeur général du célèbre groupe de presse Wafajiri, est décédé hier soir. Fondateur du premier groupe de presse privé d'Afrique de l'Ouest, Sidi Lamine Niass a été un témoin actif des alternances politiques du pays. Il est devenu un symbole des médias. Il est décédé à l'âge de 68 ans. Le point depuis Dakar avec notre correspondant Sedina Abagué.
Sidi Lamine Niass est mort ce mardi matin à l'hôpital principal de Dakar des suites d'un malaise cardiaque survenu ce lundi dans la nuit. Fils de marabout et lui-même guide religieux, Sidi Lamine Niass a créé le premier groupe de presse privée d'Afrique de l'Ouest en 1984. De ce groupe multimédia sont sortis les plus grands noms de la presse sénégalaise. Alassane Sambo Diop est l'un d'eux. Aujourd'hui directeur de radio et de télévision, il rend un hommage soutenu aux défunts.
Nous devons rendre hommage à Sidi Lamine Niass de nous avoir fait confiance, de nous avoir aidé à faire nos premiers pas dans ce métier. Je pense que la nation sénégalaise doit lui rendre hommage.
Sidi Lamine Niass laisse derrière lui un groupe de presse qu'il aura su porter seul pendant des dizaines d'années. Décédé à l'âge de 68 ans, il sera inhumé ce mercredi dans la cité religieuse de Kaolack, sa ville natale. À Dakar, Seydina Abagay pour VOA Afrique.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le gouvernement français joue la carte de l'apaisement face à la colère des Gilets jaunes. Le Premier ministre Édouard Philippe annonce trois mesures fiscales, notamment la suspension des nouvelles taxes sur l'essence. Le point avec Raïssa Girondin.
Pas de parole de l'Élysée à ce stade après l'allocution du Premier ministre Édouard Philippe. Aucune taxe ne mérite de mettre en danger l'unité de la nation, a déclaré dans son allocution le Premier ministre français. Il a annoncé trois mesures pour tenter d'apaiser la crise des Gilets jaunes. Il s'agit de la suspension pendant 6 mois de trois mesures fiscales qui devaient entrer en vigueur le 1er janvier, la hausse de la taxe sur l'essence, le fioul et le diesel, la convergence de la fiscalité du diesel avec celle de l'essence et l'alignement de la fiscalité du gazole non routier. Enfin, il a ajouté que ni les tarifs de l'électricité ni ceux du gaz n'augmenteront comme prévu pour l'hiver. La concertation sur la transition face à la crise des Gilets jaunes se tiendra du 15 décembre au 1er mars. Conséquence de ce moratoire annoncé, les indépendants des travaux publics qui bloquaient depuis 7 jours le dépôt pétrolier de Brest ont levé le blocus qui avait entraîné des pénuries de carburant. 412 personnes ont été interpellées samedi, selon le préfet de police Michel Delpuech, qui a évoqué des violences d'une gravité sans précédent à Paris.
Les États-Unis ont affiché mardi leur soutien à l'OTAN, mais ont signifié à leurs alliés européens leur impatience de les voir adopter une position commune face au comportement de la Russie en Ukraine. L'OTAN est un instrument indispensable pour la sécurité de l'Europe, a affirmé le secrétaire d'État Mike Pompeo à son arrivée au siège de l'Alliance à Bruxelles pour une réunion avec ses homologues des 28 autres pays membres. Cette réunion de l'OTAN doit permettre de clarifier la position face à la Moscou dans le conflit ukrainien, selon Washington. Une délégation de rebelles houthis a quitté mardi la capitale yéménite Sanaa par voie aérienne pour participer à des pourparlers de paix en Suède. Le départ de cette délégation, qu'accompagne l'émissaire de l'ONU, Martin Griffith, a été précédé par deux mesures de confiance avec le gouvernement yéménite, notamment l'évacuation de 50 rebelles blessés vers Oman et un accord pour l'échange de centaines de prisonniers de guerre. Par ailleurs, des milliers de femmes israéliennes ont observé mardi une grève générale et défilé à travers le pays afin de protester contre les violences faites aux femmes. L'actualité économique en Afrique et dans le monde, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Nanit Talanit.
En RDC, la Générale des carrières et des mines, la GECAMINE, a annoncé un premier accord qui s'inscrit pleinement dans la stratégie de redéfinition de ses partenariats. L'accord a été passé avec une société de Hong Kong, Excellent Mining Investment. Il prévoit un partage de production sur deux gisements au Congo-Kinshasa, dont les réserves pourraient dépasser 1 million de tonnes de cuivre et 100 000 tonnes de cobalt. L'Afrique du Sud est officiellement sortie de la récession après avoir enregistré une croissance de 2,2% au troisième trimestre de cette année, selon l'Institut de la Statistique. Le PIB du pays le plus industrialisé du continent avait reculé respectivement de 2,6% et 0,7% au premier et deuxième trimestre de 2018. L'actuel rebond a pour origine l'embellie de l'industrie, de l'agriculture et du secteur des transports. Pour terminer, l'OPEP et ses partenaires vont débattre cette semaine à Vienne d'une baisse de la production de pétrole pour enrayer la chute des cours et la pression américaine pour maintenir les prix bas. Si ces pays continuent d'extraire l'or noir à des niveaux records, ils risquent en effet de voir les prix continuer de baisser. S'ils durcissent leur accord de limitation de la production, ils pourraient mettre à mal la croissance mondiale très dépendante d'un carburant à un prix abordable. Les pays de l'OPEP doivent donc trouver un accord lors des réunions plénières jeudi et vendredi et regagner leur crédibilité auprès des marchés.
Yacouba Ouidraogo nous a rejoint dans ce studio et c'est pour parler de sport. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir John, bonsoir à tous.
Nous revenons sur l'attribution du Ballon d'Or, mais en chiffres.
Cette année restera un bon prix pour l'Afrique puisque Mohamed Salah a terminé 6e, soit le meilleur classement pour un Africain depuis 2009 et la 5e place de Samuel Eto'o. L'Égyptien a récolté 188 points. Son compère sénégalais de Liverpool, Sadio Mané, 22e en compte 3. Pour rappel, chacun des 180 journalistes invités à voter devait désigner 5 joueurs par ordre décroissant de mérite à partir d'une liste de 30 joueurs préalablement établie par la rédaction de France Football.
En Italie, Mauro Icardi a été élu meilleur joueur de l'année.
Oui, l'attaquant et capitaine de l'Inter Milan a fini meilleur buteur de la saison 2017-2018 de Serie A avec 29 réalisations à égalité avec Ciro Immobile de la Lazio Rome. La Juventus, septuple championne en titre, a été élue meilleure équipe de l'année. Son entraîneur Massimiliano Allegri, qui reste sur 4 doublées coupes championnat d'affilée à la tête de la vieille dame, a été distingué comme meilleur coach pour la 4e fois de sa carrière.
6,3 millions de dollars de retombées du mondial pour les clubs africains.
Comme c'est le cas depuis 2010, les clubs qui ont mis à la disposition des sélections leurs joueurs pour la Coupe du Monde 2018 vont recevoir une compensation financière de la part de la FIFA. Au total, la FIFA a indiqué qu'elle va verser 209 millions de dollars à 416 clubs issus de 63 associations membres. Sur ce montant, environ 6,3 millions de dollars vont revenir aux 17 clubs africains qui comptaient au moins un élément présent en Russie. Avec 1,7 million de dollars, c'est Al Ahly d'Égypte qui recevra la plus grosse part du gâteau.
En athlétisme, Kipchoge est optimiste pour le titre d'athlète de l'année.
Le Kenyan, nouveau recordman du monde du marathon en 2h, 1 minute 39 secondes, espère être désigné athlète de l'année par l'IAF ce soir à Monaco. Il est en concurrence avec le décathlonien français Kevin Mayer, le sprinteur américain Christian Coleman, le perchiste suédois Armand Duplantis et le coureur de 400 mètres haies qatari Abderrahman Samba. Chez les dames, le prix sera disputé entre la Kenyane Beatrice Chepkoch, nouvelle record woman du monde du 3000 mètres steeple, et la sprinteuse britannique Dina Hache-Smith, entre autres.
Merci, Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. À présent, les dossiers du jour et on commence par Dakar. Les Sénégalais iront aux urnes le 24 février prochain pour l'élection présidentielle. Seulement à quelques mois de ce rendez-vous électoral majeur, la situation sociopolitique est tendue. Une situation qui indispose et inquiète les Sénégalais, comme l'indique ce reportage de notre correspondant à Dakar, Sedina Abagué.
À 3 mois de la présidentielle, la tension politique est perceptible au Sénégal. La bagarre à l'Assemblée nationale entre députés du pouvoir et de l'opposition lors de la séance de vote du budget du ministère de l'Enseignement supérieur vient mettre de l'huile sur le feu. À cela s'ajoute un front social en ébullition avec la grève des agents de la justice et ceux de la santé. Une situation qui désole les citoyens comme Samba Diop.
C'est une période extrêmement cruciale et par conséquent, il va falloir des comportements beaucoup plus citoyens. Et non pas, n'est-ce pas, des comportements, n'est-ce pas, de vente en guerre. C'est une élection des échéances très importante pour le Sénégal et ça doit redorer le blason, n'est-ce pas, sur le plan international. Et par conséquent, les acteurs politiques doivent donner le bon exemple au niveau des plateaux de télévision ou bien d'autres plateaux, n'est-ce pas, qu'ils aillent dans le sens de l'apaisement. Je pense que c'est mieux.
Abdourahmane, marchand ambulant âgé de 35 ans, est toujours tête à par la tension politique que le Sénégal a connue en 2012. Voilà pourquoi il dénonce l'agitation et la violence dans l'échiquier politique du pays.
Si l'on poursuit sur cette lancée et si les violences continuent comme ça, ça risque d'être pire qu'en 2012. Les leaders politiques doivent montrer le bon exemple afin que l'on puisse avoir des élections libres, transparentes et sans violence. La bagarre à l'Assemblée nationale n'est pas digne de nos députés. Ils doivent avoir un peu plus de respect envers le peuple qu'ils représentent. Ils doivent avoir un bon comportement et bien faire leur travail. Mais se battre devant les caméras du monde entier, ce n'est pas digne et ce n'est pas ça leur boulot.
Trouvé devant sa maison assise à Grand Dakar dans la banlieue dakaroise, Saliou Diaw indexe le parti au pouvoir et l'opposition. Selon le natif de Thiès, ils sont tous responsables de cette violence. D'ailleurs, ce jeune estime qu'il est temps que nos dirigeants mettent fin à certaines pratiques.
Pour moi, toute cette agitation traduit le manque de confiance de nos leaders. Les personnalités politiques doivent penser au futur. Chacun d'entre eux peut aspirer à diriger le pays et on ne peut pas diriger un pays dans la violence. Donc, ils doivent tous se ressaisir, penser au peuple et à la postérité. Je pense qu'il est temps pour eux d'avoir une attitude responsable afin de laisser une belle image pour la postérité.
Ce climat politico-social tendu inquiète au Sénégal, pays connu pour sa stabilité sociale et son hospitalité. À Dakar, Seydina Abagui pour VOA Afrique.
L'émission interactive de VOA Afrique, à votre avis, c'est à 18h05 temps universel. La Coupe d'Afrique des Nations de football 2019 a été retirée au Cameroun, qui organisera la CAN 2021, initialement attribuée à la Côte d'Ivoire. Que pensez-vous du mode d'attribution de cette compétition par la Confédération africaine de football? Quelles sont selon vous les véritables raisons de ce décalage des pays organisateurs? Pour participer, laissez vos numéros et commentaires sur la promo de notre page Facebook ou appelez en direct au 001 202 205 26 33. À tout à l'heure sur VOA Afrique.
Le nombre de chômeurs au Nigeria a bondi de près de 30% cette année. 16 millions de personnes sont ainsi sans emploi selon un rapport publié en novembre par le Bureau national des statistiques. 2 autres millions devraient être au chômage d'ici la fin de l'année. Et si le chômage augmente tant, c'est que le Nigeria a pris la place de l'Inde sur la liste des pays où les populations vivent dans l'extrême pauvreté, à 2 mois de l'élection présidentielle. Un reportage de Timothy Obiezu, le récit est de Raïssa Gironde.
Josh Okere, ce jeune Nigérian, se prépare de nouveau à descendre dans la rue à la recherche d'un travail. Un exercice qu'il pratique depuis qu'il a obtenu son diplôme il y a 6 ans.
Vous quittez votre maison le matin sans savoir où vous allez. Vous avez simplement cet espoir, cette conviction que lorsque vous sortez, vous trouverez quelque chose.
Au Nigeria, le taux officiel de chômage a subi une augmentation de 30% cette année. Ils ne sont pas moins de 16 millions sans travail et l'on estime à 2 millions le nombre de chômeurs qui devraient rejoindre la liste d'ici la fin de l'année. Moins de 40% des quelques 200 millions de Nigérians ont un emploi à part entière. Pour l'économiste Eze Onyekpere, le chômage touche tous les secteurs de l'économie nigériane.
C'est aussi un produit des choix que vous faites dans votre politique commerciale, votre politique du travail, votre politique industrielle, même votre politique d'éducation, votre politique de santé. C'est simplement une démonstration de la confiance que les gens ont dans votre économie. C'est aussi question de la qualité des biens et services que vous produisez dans le pays. Nous avons donc un gouvernement qui, avec tout le respect que je lui dois, n'a pratiquement aucune idée de la politique économique.
Le Nigeria a dépassé l'Inde cette année pour devenir le pays ayant le plus grand nombre de personnes vivant dans l'extrême pauvreté, soit 87 millions selon la Brookings Institution basée à Washington. Au Nigeria, aux élections de février, il est probable que le chômage et la pauvreté dominent l'agenda des partis politiques en quête de suffrage. Selon l'analyste politique Lanré Osho, de nouvelles propositions de politique économique sont peu probables.
Ceux qui observent l'économie nigériane auront sans doute remarqué que l'économie est figée depuis un moment. Vous savez que nous avons une politique très singulière au Nigeria qui gèle notre économie à l'époque des élections.
Le Nigeria est sorti de sa pire récession en près de 3 décennies en septembre dernier et a connu des épisodes de croissance économique. Mais il n'y a pas eu d'impact positif quant au chômage et à la pauvreté. Le Nigeria doit créer 4 millions de nouveaux emplois par an pour inverser les tendances négatives. Un défi de taille pour le vainqueur de la présidentielle de février.
Au Tchad, c'est hier que s'est ouverte la 5e session criminelle de la cour d'appel de N'Djamena. Au total, 25 dossiers sont inscrits au rôle de cette session criminelle. André Kodmadjinga, correspondant de VOA Afrique, fait le point depuis N'Djamena.
Nous avons 16 cas de viol, 2 cas d'assassinat, 2 cas d'association de malfaiteurs, 2 cas de participation à un mouvement insurrectionnel, 1 cas de meurtre, 1 cas de détournement des mineurs, 1 cas d'enlèvement d'enfants.
Mokhtar Abdelhakim Doutoum, procureur général, près la cour d'appel de N'Djamena, citant la nature et le nombre des infractions inscrites au rôle de cette session criminelle dans sa réquisition. Le procureur général assure que ces accusés auront droit à un procès juste et équitable conformément à la Déclaration universelle des droits de l'homme.
Les principes consacré dans cette déclaration qui nous intéresse particulièrement dans le cadre de notre audience sont les suivants. Droit à un procès équitable, article 10 de Déclaration universelle des droits de l'homme. Droit à la présomption d'innocence et droit à la défense, article 11 de même déclaration. Droit à l'égalité devant la loi, article 7 de même déclaration.
Le code de procédure pénale prévoit 2 sessions criminelles par an pour chaque cour criminelle en République du Tchad. Le secrétaire de l'Ordre des avocats du Tchad, Djumadoum Kemto Emmanuel se réjouit du fait qu'en une année, la cour d'appel de N'Djamena est à sa 5e session criminelle. Il dénonce par ailleurs le caractère sélectif des dossiers pour cette session.
Déjà, j'ai été surpris par les infractions de viol qui occupent plus de la moitié du rôle. Mes attentes, c'est que les coupables soient punis et que les innocents soient purement et simplement acquittés. Je me réjouis du fait qu'il y ait eu plusieurs sessions criminelles cette année, ce qui permet aux accusés d'être fixés sur leur sort.
Le procès tant attendu est celui de l'ex-chef de guerre, le général Babalade, arrêté depuis plus de 4 ans pour rébellion et association des malfaiteurs. Son dossier passe le 5 décembre devant les juges de la cour d'appel. Pour le porte-parole du mouvement Action citoyenne pour l'application de l'amnistie au Tchad, Manga Jean Bosco, l'audience actuelle est sans objet puisque Babalade devrait logiquement bénéficier de l'amnistie générale signée par le président Déby.
Nous attendons que la session criminelle puisse juste prendre acte de l'existence de l'amnistie pour tous les anciens rebelles, quel que soit ce qu'ils ont fait. L'autorité publique a pris la décision de les amnistier. Donc c'est de prendre acte et de dire que l'audience actuelle, la session criminelle, n'a pas d'objet et que Babalade devait tout simplement être confirmé comme un amnistié et on doit le libérer purement et simplement.
Les autorités judiciaires justifient le fait qu'un tiers des dossiers inscrits au rôle concerne le viol par le fait que cette session se tient pendant la campagne des 16 jours d'activisme contre la violence faite aux femmes et aux filles. André Kodmadjinga N'Djamena, VOA Afrique.
Raissa Girondin avec vous. Dans Washington Forum, coup de projecteur sur la Coupe d'Afrique des Nations 2019.
Après le retrait de l'organisation de la CAN au Cameroun, la Confédération africaine de football a un mois pour faire un nouvel appel à candidature. Qu'est-ce qui n'a pas marché au Cameroun ? Comment expliquer son incapacité à construire dans les délais les infrastructures pour abriter cette grande messe sportive ? Quelles seront les conséquences pour la CAN 2019 qui va l'organiser ? Nous attendons vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Washington Forum, ce jeudi à 19h en temps universel.
La République démocratique du Congo traverse la pire épidémie d'Ebola jamais enregistrée dans le pays, avec plus de 420 cas recensés dans l'est du pays. Cette épidémie, la dixième en RDC, est particulière car plus de 60% des patients sont des femmes. Anita Powell a visité deux zones affectées par le virus. Le récit de son reportage nous est présenté ici par Morgane Guiriec.
Bénédicte n'a qu'un mois, mais sa courte existence a déjà été bien difficile. Elle a passé les trois dernières semaines de sa vie en isolement, coupée de tout contact humain. Sa mère, atteinte du virus Ebola, est morte en la mettant au monde. Elle est sous les soins constants d'une infirmière couverte de la tête aux pieds avec un équipement de protection. L'équipe médicale ne sait pas où se trouve son père et son avenir est incertain. Depuis le début du mois d'août, le virus Ebola a été diagnostiqué chez plus de 400 personnes, dont plus de la moitié sont mortes. C'est la deuxième pire épidémie d'Ebola, après celle qui a tué plus de 11 000 personnes en Afrique de l'Ouest entre 2013 et 2016. La maladie est d'autant plus compliquée à gérer que la zone où elle se propage est aussi le théâtre de plusieurs conflits armés. La région est un cocktail explosif sur lequel est venu se coller le virus Ebola. Pour le docteur Guido Cornalé, coordonnateur de l'UNICEF, dans la région, l'ampleur de l'épidémie est une évidence.
C'est devenu la pire épidémie au Congo, ce n'est pas un mystère.
Ce qui est mystérieux, c'est pourquoi plus de 60% des cas sont des femmes. Le docteur Joloko Tambwe Bat, coordinateur régional de la santé auprès du gouvernement.
Toutes les analyses faites démontrent que cette épidémie est très féminisée. Les chiffres sont quand même alarmants. Il est vrai que les femmes sont plus nombreuses que les hommes ici.
Le docteur Bat refuse de dire ou prédire la fin de l'épidémie. Mais des responsables d'organismes internationaux de santé estiment que cela pourrait durer encore 6 mois. En attendant, d'après le docteur Cornell, les épidémiologistes essaient de comprendre pourquoi le virus Ebola affecte autant de femmes et d'enfants.
Pour l'heure, on ne peut qu'essayer de deviner. L'une des hypothèses est que les femmes s'occupent de personnes malades à la maison. Donc si un membre de la famille tombe malade, qui s'en occupe ? Une femme, normalement.
Une femme, une mère, une épouse ou une infirmière, d'autant que beaucoup de personnes touchées sont des agents de santé. L'infirmière Guylaine Moulindois-Massika a passé 16 jours auprès d'une patiente qui lui a transmis le virus. C'était le combat de sa vie, un combat pour survivre.
Ce sont des douleurs énormes, en tout cas des douleurs vives. Des maux de tête, des diarrhées, des vomissements, des affaiblissements là. Donc on est très malaisé là-bas.
Pour les malades, le chemin de la guérison est long et solitaire. Massika et ses collègues ont dû s'absenter du travail, être en réclusion pendant au moins 3 semaines pour s'assurer que le risque d'infection a disparu. Dans le principal hôpital de Beni, les familles qui se sont rétablies vivent ensemble sous une grande tente blanche séparée de contact humain grâce à un cordon en plastique orange vif. Ils disent bonjour à leurs gardiens et qui doivent enfiler des vêtements de protection s'ils veulent s'approcher d'eux.
C'est la fin de cette édition mise en onde par Lionel Gaïma. Colonel Steiner était à la console. John Lyndon vous a présenté ce journal. Merci d'avoir suivi.
Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM. Raga FM, Kinshasa. Soleil FM, Conakry. 92.3 FM, Radio Wentanga.
Wayeguya, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.
VOA Afrique.